Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC Running. Gilbert Bribois.
Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied d'RMC. Courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes, c'est ça RMC Running toutes les semaines. Dispo sur toutes les applis, bien sûr, sur l'appli RMC, l'appli RMC Sport, et sur les plateformes. Et si vous êtes en train de courir, gardez bien le rythme, on est avec vous pendant près de 30 minutes. C'est parti. Et aujourd'hui, pour notre sixième numéro de la saison, j'ai avec moi Maud Debs. Bonjour Maud.
Bonjour.
Maud, tu es l'une des organisatrices d'une épreuve jamais vue en France. Un trail par étape qui fera traverser une bonne partie du pays à ses participants. On va en parler. Évidemment, on va donner envie d'y participer parce que c'est un truc assez étonnant. Alors bon, il faut quand même avoir la santé. On va rentrer dans les détails. Mes premières questions rituelles dans RMC Running. Maud, pourquoi tu cours ?
Waouh, quelle belle question. Alors moi, pourquoi je cours ? Pour m'évader, rencontrer des gens et découvrir pas mal de paysages que je ne connais pas, voilà, en marchant, en m'évadant.
Donc
voilà.
Ça veut dire que t'es traileuse avant tout ?
Alors, j'ai commencé par la route il y a quelques années, en 2013. D'ailleurs, la première course que j'ai courue, c'est le semi-marathon de Paris, où je ne m'étais pas du tout entraînée. Mais je l'ai fini et ça m'a donné envie.
Ah, t'es allé comme ça, tu te dis, tiens, je vais aller faire le semi-marathon de Paris sans m'entraîner.
Alors en fait, on m'a lancé un défi. J'ai vu deux collègues qui commençaient à courir. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, j'aimerais bien faire comme eux. Et en fait, ils m'ont dit, mais si tu veux, on s'inscrit au semi-marathon de Paris. Je dis, bah oui, bien sûr. Sauf que moi, je savais pas que c'était 21 km semi-marathon. J'avais pas.
Ah ouais, tu partais de zéro,
exactement.
Quoi.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas entraînée. Je me suis dit, bon, on y va au talent. Ça s'est très mal passé. Enfin, si, les 10 premiers kilomètres, ça s'est très bien passé. Mais c'est les 10 derniers, c'était l'enfer. Je titubais, je me tenais aux voitures, pour que vous ayez un peu l'image.
Mais que tu as fini quand même.
J'ai fini quand même. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je m'entraîne et que je cours.
Donc là, tu en as bien chié. Et à la fin, tu t'es dit, je vais recommencer.
Exactement.
Ça, c'est typique. OK, très bien.
Parce que l'adrénaline qu'on a et le bonheur qu'on a en franchissant la ligne d'arrivée, c'est incroyable. Donc en fait, on se dit, on a encore envie de revivre ça. Et on se dit, on a un peu envie, moi, de galérer pendant les
donc
10 derniers.
Donc t'étais picousée, quoi.
J'étais picousée. Et à tel point que je me suis dit, si j'arrive à faire un semi-marathon, je vais me lancer dans un marathon. Et c'est ce que j'ai fait l'année d'après, en m'entraînant. Ça s'est bien passé. Et à tel point que j'étais picousée, que j'ai décidé de partir faire 2 ans de Tour du Monde, en trail, toute seule. Et donc je suis partie pendant 2 ans avec mon sac à dos. Et j'ai couru une vingtaine de trails et de courses aussi sur route.
Ah, c'est pas mal ça. Donc tu avais organisé ton trip en fonction des courses, quoi.
Exactement, voilà. C'était un peu
l'idée. Génial.
Et je suis allée rencontrer des femmes coureuses, je les ai aussi interviewées, rencontrées, enfin voilà. J'ai donc commencé la course à pied.
T'es allée courir où ? Alors raconte un peu.
Alors je suis allée courir dans les 5 continents, en Afrique, donc plutôt Afrique de l'Est. Là, vous avez 3 quarts d'heure ou c'est bon ?
Non, on n'a pas 3 quarts d'heure, mais on va essayer de résumer le truc. T'as fait une course par continent ?
Non, j'ai fait 20 courses dans 33 pays. Donc, ça fait à peu près 3-4 courses, un peu plus, par continent. Voilà.
Génial.
Donc, Afrique, Asie, Océanie.
Tout type de course, je veux dire, ce que tu avais en magasin,
entre,
quoi.
Entre 20 km et 40 km, que ce soit sur route ou sur sentier, en trail.
Bon, alors, c'est quoi la plus extraordinaire, celle que tu as préférée ?
Qui est mythique, c'est courir sur la muraille de Chine. Ça c'est incroyable. Voilà. Ça fait partie des gros souvenirs que j'ai, ou même courir en Patagonie, dans les grands espaces où on croise des petits guanacos, c'est des genres de lamas, mais type cheval. Ça, c'est incroyable. Ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai en course à pied.
Alors, parlons de la muraille de Chine. La muraille de Chine, bien organisée, tu cours vraiment sur la muraille ?
Tu as 6 km en bas à courir et après, tu as peut-être 12 km sur la muraille parce que c'est très réglementé. Mais...
Oui, et puis attention, parce que ça monte et ça descend.
Enfin,
moi, j'ai été sur la muraille de Chine modestement en marchant, il n'y a rien de plat.
Ah oui, c'est pas du tout égal. Les marches, elles sont petites, grandes. On descend souvent en se tenant. Mais ça reste un souvenir assez mémorable parce qu'on court sur un monument que tout le monde connaît et assez mythique il y a des milliers d'années.
Bon, et il y a du monde, enfin, ça doit être très international, quoi. C'est les touristes ou...
C'est essentiellement des Occidentaux, oui.
C'est bon, ça. Oui. Et la Patagonie, là, t'es au milieu de nulle part, des animaux.
Là, il n'y a personne. Et en fait, on se dit, ben, on est seul au monde, et c'est vraiment le cas. Et on voit les sommets enneigés au loin, il y a des lacs. C'est vraiment très, très calme. En fait, on est dans un endroit où jamais ça a été aussi calme. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais vu un endroit aussi calme qu'en Patagonie.
Ah, c'était un trail, en l'occurrence.
Exactement, c'était un trail, là.
Alors quoi d'autre ? Vas-y, mais là ça me... j'aurais peut-être pas dû te lancer là-dessus. On va quand même parler tout à l'heure du Trail de France, hein, bien sûr. Mais à quoi d'autre que encore une troisième, allez là.
Alors une troisième mythique, je pourrais dire. Ah, je sais, j'en ai une. À Madagascar. Mm-hmm. En fait, ça s'appelle l'Utop. C'est une course. Donc moi j'ai fait le 31 km, mais il y a un 120 km. Et là en fait on est vraiment perdu dans les montagnes, à côté de la capitale, donc Antananarivo. Et il fait entre 20 et 30 degrés. C'est dur, parce qu'en en fait, on n'est pas habitué à ce type de chaleur.
Humide en plus, j'imagine.
Très humide. Mmh. Et en fait, il y a une petite récompense, c'est qu'à chaque fois qu'on redescend de la montagne, eh ben, on arrive dans un petit village, et là, les gens, c'est une fête. C'est-à-dire qu'ils se mettent à danser. Quand vous arrivez, les ravitaillements, on a l'impression que c'est pas un ravitaillement, c'est une fête. Il y a une soirée qui va commencer. En fait, on se dit, bah non, mais moi, j'ai encore 10, 15, 20 kilomètres à continuer. Mmh. Et en fait, c'est pour eux vraiment un événement festif. Bon. Donc ça fait partie aussi des bons souvenirs. Mais j'en ai encore d'autres. Mais
t'as pas un blog ou un truc où tu racontes tout ça?
Oui, c'est pour ceux qui nous écoutent. Ça s'appelle World Wild Runners.
D'accord.
Donc j'ai créé une page il y a quelques années, c'était entre 2015 et 2017.
On peut toujours y aller, quoi, pour voir.
Exactement, on peut toujours y aller pour voir et un peu consulter voilà, toutes les courses que j'ai faites. Et en fait, en rentrant de ces deux ans, j'ai rencontré Frédéric, qui lui aussi est un passionné de voyage et de course à pied, qui a fait de nombreuses courses, lui, en Europe et aux États-Unis, notamment la Hard Rock 100, le Torget des Géants, c'est vraiment des mythiques.
Oui, là, on est sur de l'ultra trail.
Exactement, lui,
de
c'est,
ouf, là.
Lui
oui.
c'est un ultra trailer. Et en fait, on avait une passion tous les deux voilà, pour ce voyage. Et c'est comme ça en fait, qu'on a eu l'idée de créer l'agence de voyage Trail the World. Donc en alliant nos connaissances sur le voyage et nos connaissances sur le trail.
Et donc, vous emmenez de par le monde des trailers participer à des courses.
C'est ça, en fait. L'idée, c'était ça à la base. Il y a une course qui vous plaît, en Patagonie par exemple, vous ne savez pas comment y aller, vous voulez être accompagné par quelqu'un ou pas, et en fait nous on gère tout, la logistique du début à la fin, donc les billets d'avion, l'hébergement, les dossards, et même les activités à faire sur place. Et si on accompagne, on fait le suivi intégral des coureurs, c'est-à-dire que vous allez nous retrouver à des ravitaillements ou même à des intersections où vous ne savez même pas que vous allez nous retrouver, mais on sera là pour vous encourager et pour vous soutenir.
Alors, ça veut dire que, pour que je comprenne bien le concept, vous pouvez prendre un runner, par exemple, qui dit « Tiens, j'ai pas envie d'y aller tout seul parce que, je sais pas, moi j'ai peur ou j'ai pas envie d'être seul, donc venez avec moi, on va le faire. » Là, vous faites cette prestation, mais vous pouvez aussi emmener des petits groupes, j'imagine, constitués en disant « Tiens, cette année, on va tous à tel endroit, si vous voulez vous joindre au groupe. » Vous faites aussi ça, vous faites dans les deux sens, quoi.
Exactement, en fait, c'est soit vous intégrez un groupe, soit vous venez avec votre propre groupe et on vous crée le voyage. Ou soit vous voulez partir tout seul, et là aussi, on vous crée un voyage comme une agence de voyage, on va dire, standard, sauf que nous, on est spécialisé sur la partie trail.
Et là, en ce moment, avec le coronavirus, là, vous arrivez quand même à fonctionner.
Exactement, ça, c'est, ouais. C'est un peu la problématique du début d'année. Ça partait bien parce qu'on avait lancé ça donc, depuis 2018. Les gens commençaient à partir, à voyager, sauf que le coronavirus est arrivé. Et nous, on a arrêté les voyages. On ne pouvait même pas conseiller aux gens de partir, sachant qu'ils allaient partir. L'événement n'allait pas être là et ils allaient potentiellement être en quarantaine si jamais ils partaient dans un pays. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est que déjà, on avait commencé depuis un an à développer des courses en France, des concepts uniques. Donc il y a une course déjà qu'on a développée qui s'appelle Infinity Trail. C'est une course en boucle. Alors attention, celle-ci, elle est assez dure. Une course en boucle de 6,7 km à faire toutes les heures. Jusque-là, ça reste facile. On se dit 6,7 km à faire en une heure, je peux le faire.
Ouais.
La difficulté, c'est qu'il faut repartir toutes les heures.
Et que ça dure combien de temps ?
Ça dure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne. Donc, c'est-à-dire que en fait, il faut abandonner. En fait, il n'y a pas de...
En gros, il faut survivre, quoi.
C'est ça, c'est le dernier homme debout, le dernier survivant. Donc, en fait, vous pouvez tourner des heures et des heures.
Ah, attends, ça, vous l'avez déjà fait, ça ?
Exactement, on l'a déjà fait, s'appelle
Infinity
Trail.
Je ne suis pas au courant, moi. Et alors, c'était où ?
Alors ça, c'était en Normandie.
Okay.
Donc, ça s'est fait cet été. On devait le faire en mai, mais on l'a décalé à cause du coronavirus. Donc ça fait partie des événements qu'on a créés
Mais dans quel esprit tordu alors, ce truc-là est né?
Alors, l'esprit tordu, c'est l'esprit de Lazarus Lake. Peut-être que tu connais, c'est le créateur de la Barclay.
D'accord.
La course la plus dure au monde dans le Tennessee. Mm-hmm. Et en fait, il s'est amusé à faire cette course en boucle dans son jardin. Ça s'appelle une backyard ultra. Sauf qu'en fait, ce concept...
Genre, il a pris ses amis, il a dit « Allez, on y va, et puis on va voir le dernier, quoi. »
Et en fait, non, il s'est dit, il voulait tester l'endurance mentale et physique des coureurs. Et il s'est dit « Tiens, je vais le faire dans mon jardin, je vais faire une boucle toutes les heures de 6,7 km. » Alors, pourquoi 6,7 km? C'est parce qu'en fait, si vous faites 24 boucles, ça fait 160 km, et c'est 100 miles. Et 100 miles, c'est une distance mythique aux États-Unis.
Mmh, d'accord.
En gros, c'est l'ultra-trail à faire au moins une fois dans sa vie. Et en fait, il a créé un championnat mondial des backyards d'ultra. Et nous, on fait partie de ce championnat mondial en France. Et donc, on donne accès à sa course aux États-Unis.
Incroyable.
Voilà. Donc ça fait partie des courses qu'on a créées.
Bon, attends, je finis là-dessus. va pas trop vite. Là, le gagnant, il a fait... Ou la gagnante, je sais pas. Oui. Combien de...
Alors...
Elle a tenu combien de temps?
Alors, notre course, c'est une boucle de 6,7 km avec 150 mètres de dénivelé positif. Donc, en soi, ça reste pas beaucoup. Mais en fait, si on le fait...
Oui, c'est la répétition qui est compliquée.
Donc, lui, il a fait 30 boucles. Donc 30 heures. 30 heures à tourner.
Le vainqueur.
Le vainqueur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est très peu médiatisé, il y a eu la finale mondiale des backyards.
D'accord.
En fait, normalement, ce qui se passe, c'est que le vainqueur de chaque pays va aux États-Unis et va concourir aux États-Unis pour la grande finale. Sauf que cette année, ce n'était pas possible.
Mm-hmm.
Donc ce qui s'est passé, c'est que Lazarus Lake a eu l'idée de dire bah, « Tiens, si on faisait une compétition en simultané avec toutes les équipes dans le monde.
Mm-hmm. »
Et bien, c'est ce qui s'est passé. Ce week-end, on a fait donc, le championnat des backyards ultra en France. Et donc, nous, on a monté une équipe de France. Et l'équipe de France, elle a tenu jusqu'à 46 heures. Le dernier de chez nous a tenu 46 heures. Bon, alors, c'était sur une boucle un peu plus plate. Donc, c'était un peu plus facile. Et en fait...
Et au niveau mondial, il y en a qui ont fait mieux?
Alors, bien sûr. Il y en a qui ont fait mieux. Nous, on a fini dans le top 5. Donc, il y avait 21 nations, 300 coureurs. Et la dernière nation en course, c'était les Belges. Et ils ont fait 75 tours. 75 heures à tourner en boucle.
Donc, c'est vrai qu'il y a un gars, forcément. Il y en a un qui a réussi à faire les 75 heures, quoi.
Exactement. Ouais, c'est un grand coureur connu, en fait. Il s'appelle Karel Sab. C'est un Belge, du coup. Et il est assez impressionnant parce qu'il a tenu 75 heures. Voilà.
Bon, bah, tu vois, je ne connaissais pas du tout ce concept. Et pourtant, j'en ai vu. Mais alors là, c'est bluffant, ce truc. Bon, très bien. Mais après, comment ça se contrôle? Parce qu'il faut que vous ayez à peu près tous la même topographie aussi. Parce que...
Alors, on aurait pu, en fait... Là...
Vous auriez pu le faire sur une piste d'athlée.
Exactement. Alors, il y a eu des différences parce qu'il y a eu des gens. Au Canada, il faisait froid. En Suède, il faisait froid.
Ah oui.
Au Mexique, il faisait super chaud. Nous, il a fait un froid, du brouillard, c'était horrible. Mais on va dire que c'est la première édition, donc c'était... On va dire que c'était un test. Je pense que si l'année prochaine ça a lieu, je pense que ça sera un peu plus réglementé. Mais c'est l'esprit aussi de Laz. Quand on connaît l'organisation de la Barclay, etc., on sait que c'est pas à 100% bien organisé. Mais ça fait aussi partie du jeu. C'est
D'accord.
plus pour en fait réunir les gens qu'il a organisé ça que pour vraiment faire la compétition. Pure.
Et là, il y a déjà un rendez-vous de fixé pour l'année prochaine?
Pas encore. On
D'accord.
attend.
Mais ça pourrait être l'été prochain, quoi.
Bah, ça s'est fini avant-hier, donc on va...
Non, je veux dire, pour votre événement à vous.
Alors, pour notre événement sur l'Infinity Trail, on en a un en Normandie, donc en mai, et on en a
D'accord.
un autre donc sur l'île d'Aix, c'est en octobre. Là, on n'a pas pu l'organiser cette année, parce que voilà, il y a eu le coronavirus, et c'était un peu compliqué. Et on en a une autre qu'on va ouvrir en avril dans le sud-ouest. Donc
D'accord.
en fait, on va ouvrir plusieurs autres compétitions.
Et là, on retrouve toutes les infos, où ça?
Sur infinitytrail.fr.
Voilà, parce que évidemment,
ben bien sûr.
Si on veut avoir les infos, il faut être au courant de tout. Alors, très bien. Donc, on a parlé de plein de trucs, mais pas du sujet principal pour lequel tu es venu. C'est le Trail de France. Alors, ça, c'est un trail par étapes. Un truc qu'on n'a jamais vu en France, a priori, à moins que là, une nouvelle fois, je ne sois pas au courant. Enfin bon, raconte un peu le concept. Ça se passe sur un espace-temps très précis, avec des étapes déjà prédéterminées. Quelle est l'idée?
Alors, l'idée du Trail de France, c'est de faire voyager les trailers en France comme on ne peut plus voyager à l'étranger. Sur le même principe du Tour de France que tout le monde connaît.
Tour de France cycliste.
Voilà, Tour de France cycliste, pardon, que tout le monde connaît. On a voulu créer une édition en trail parce qu'on s'est dit que ce serait sympa de redécouvrir la France en courant. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire un trail en étape, mais pas en continu. C'est-à-dire qu'on change de région, on change de département tous les jours. Donc, ça se passe sur une semaine. C'est du 8 au 14 juillet 2021, donc l'été prochain.
Une étape par jour.
Une étape par jour. C'est 380 km. Donc, il y a 6 étapes. Donc, il y a 3 régions.
Donc, ça s'adresse quand même là. On va petit à petit. Parce que 380 km, ça veut dire que ça s'adresse quand même là soit des ultra-trailers, soit des gens vraiment... Enfin, voilà, c'est quand même là... tu t'adresses à un petit groupe de runners. Hein.
Alors, je suis d'accord sur la partie... continue, c'est on court une étape par jour. Sauf qu'on a pensé à quelque chose, c'est qu'on a fait, on a ouvert la possibilité de s'inscrire en équipe. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros,
excellente idée.
Si t'es pas ultra trailer et ultra entraîné, tu dis bon, bah 380 km, même si
tu fais une étape et tu suis les autres, quoi, avec ton équipe. Ouais.
Sauf qu'en fait, on s'est dit voilà, si on veut ouvrir à plus de monde, et ben on va l'ouvrir en équipe. Enfin, à la base, on l'a ouvert en équipe et après, on s'est dit, il y a peut-être des gens qui vont vouloir le faire en individuel. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé.
Ah oui.
Mais parce qu'en fait, nous, on est aussi...
Bon, enfin, le monde de l'ultra-trail, il y a tellement des fêlés que je ne suis plus étonné de rien, moi.
Donc, du coup, en équipe, tu peux le courir. Donc, l'idée, c'est de se relayer tout au long de l'étape. C'est-à-dire que chaque équipier ne fait pas une étape et après, autre fait une autre.
Il faut que chaque équipier fasse au moins un petit morceau d'étape.
Exactement. Chaque équipier qui fasse 5 km ou 20 km... il peut le faire.
D'accord.
Sachant
que
les étapes...
c'est déjà plus atteignable.
Exactement. Donc, les étapes, elles sont de 50 à 80 km, sauf pour la dernière. Parce qu'il y a une étape bien spécifique sur la dernière. Donc, c'est 6 étapes, donc de 50 à 80. Et la dernière, c'est 10 km en contre-la-montre. Alors, en contre-la-montre, c'est comme le Tour de France. Mm-hmm. L'idée, c'est de partir à l'inverse du classement général. C'est-à-dire que les premiers partent en dernier et les derniers partent en premier. Comme ça, en fait... tout le monde se...
Vous les avez quand, vos idées là, à l'apéro? Enfin, comment vous fonctionnez? Parce que c'est super, hein, moi je trouve ça génial. Mais...
Alors, il faut savoir qu'avec Fred, on a 40 000 idées à la minute. Sauf qu'en fait, il y en a...
Non, mais le coup du contre-la-montre, c'est génial, ça.
Ben, en fait, il y a aussi des courses qu'on a organisées avant, qui étaient aussi en étape, où il y avait un contre-la-montre. Et en fait, ça crée un petit challenge.
Et, oui.
Et ce contre-la-montre, il est aussi bien spécifique, c'est qu'on veut aussi que les relais courent ensemble. Parce qu'en fait, on se dit, ok, tu fais 5 jours, tu pars une semaine avec tes potes ou avec ta famille, mais au final, tu ne te vois pas vraiment tout le temps. Si le dernier jour, tu peux faire 10 km, courir avec tous tes potes...
Donc ce contre-la-montre de dernière étape, il est court.
Il est court, c'est 10 km, c'est un aller-retour, c'est au Luron, c'est dans une station de ski, donc il y a un petit point de vue, tu reviens et en fait, à la fin, on fait la fête tous ensemble, sachant en plus que c'est le 14 juillet. Donc ça, c'est chouette aussi.
Alors, prenons les étapes. D'où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on va pour donner un peu envie, là?
Alors, attention. On part de Bellegarde-sur-Valserine, donc ça s'appelle Valserone. C'est dans l'Ain.
D'accord. Donc, c'est le Jura, quoi.
C'est le Jura, exactement. On va jusqu'au massif du Colombier et on arrive à Culose. Donc, c'est le Colombier, c'est si on connaît un peu le cyclisme. Voilà, c'est une ascension.
Le col du Grand Colombier, effectivement, c'est loin d'être plat.
Exactement. Alors, sauf qu'on ne passe, passe pas par la route, on passe par les sentiers. Mm-hmm. Donc, on passe par des petites crêtes et on redescend par une descente, on va dire, en sous-bois, très magnifique, qui arrive dans la vallée de Culose.
Là, vous avez déjà tout repéré et
exactement.
Tout
bah, on a repéré... alors, comment ça s'est passé? On a créé le parcours pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et on a rencontré... les communes, les parcs, au moment où on a pu sortir au moment du déconfinement. Et on est retourné encore, il n'y a même pas 3 semaines, sur le parcours pour repérer encore une fois, pour voir quels étaient les points d'attention, les points où il fallait mettre les ravitaillements, où il fallait faire attention, etc., pour préparer un roadbook spécial pour nos coureurs. Parce qu'on n'est pas juste organisateur, on est coureur aussi.
Oui, enfin là, pendant l'événement, vous allez réussir à courir.
Non, on ne courra pas. Oui. Non, là, on sera plus coordonnés.
Oui, mais ça aide de courir, parce qu'effectivement, tu penses à tout. Je suis bien d'accord que c'est important. Alors, la première étape, elle fait combien de kilomètres?
Elle fait 50 kilomètres.
Très bien.
Avec plus de 2000 mètres de...
Oui, alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas se dire, tiens, le Jura, par exemple, ça monte moins haut que les Alpes, donc ça ne veut pas forcément dire que l'étape va être plus facile.
Non, elle ne va pas être plus facile. Il va falloir être fort en descente sur cette étape. Enfin, fort, à l'aise en descente. Elle n'est pas compliquée, mais il va falloir aimer les descentes pour faire cette étape. Donc,
ça, c'est la première.
C'est la première. Donc, c'est Bellegarde-sur-Valserine jusqu'à Culose.
Alors, ça veut dire qu'on organise les transferts. C'est comme au Tour de France. Donc,
exactement.
Ça veut dire que dès qu'on franchit la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, quand tu es en individuel, tu es pris en charge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu arrives, il y a une navette. Alors, on va organiser 2-3 navettes dans la journée pour t'emmener sur le camp de départ du jour d'après. C'est là où tu vas pouvoir dormir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dormir les coureurs sur le lieu d'arrivée, on les fait dormir sur le départ, comme ça.
On dort dans quelles conditions?
Alors, on dort dans des tentes, soit partagé en équipe, soit avec d'autres coureurs si on est en individuel.
D'accord. Donc, et ça, c'est l'organisation qui s'en occupe.
C'est nous qui gérons
tout ça. C'est pas, tu ne montes pas ta tente, quoi.
Non.
En fait, tout est prêt quand tu arrives.
On pourrait se dire, on fait monter la tente aux coureurs, sauf que le premier jour, c'est facile. Mais c'est le quatrième jour.
Tu fais les camps de base, genre marathon des sables, quoi.
Exactement. Donc, on monte tout. Il y a un repas chaud le soir. Et il y a un repas aussi à l'arrivée, au moment, à la fin de l'étape.
Et donc, tu as ton paquetage qu'on t'emmène de camp en camp.
Tu laisses ton sac. Alors, pour les individuels, tu laisses ton sac et on te prend en charge. Pour les équipes, là, l'idée, c'est de se relayer tout au long de l'étape. Donc là, il va falloir partir en liberté. Donc chacun aura sa voiture. Et en fait, vous suivrez vos coéquipiers, quoi.
D'accord, compris. Donc là, on est dans le Jura. Deuxième étape, le Vercors.
Alors le Vercors, ça part de Léoncelles. C'est une petite ville où il y a peut-être 60 habitants. Il y a une très belle abbaye. La mère, d'ailleurs, est très gentille. Elle nous a très bien accueillis. Elle est ravie d'ailleurs qu'on organise cet événement parce que ça fait vivre un petit peu sa ville qui est un peu perdue au milieu du Vercors. Mais c'est incroyable. Donc vous allez donc de Léoncelles jusqu'à Luz-la-Croix-Haute. Et donc on va monter sur des petites crêtes, sur des plateaux où il y aura des pâturages, il y aura des petites brebis, des petits patous. Alors il faudra faire attention. Mais voilà, il y a de quoi faire. C'est l'étape où il y a le plus, comment dire, c'est le plus haut, il y a le plus de dénivelé. Donc, elle va être longue, elle va être intense.
Mais là, on parle de combien de kilomètres, là ?
C'est 80 kilomètres. Elle va être longue, intense, mais l'arrivée à Luz-la-Croix-Haute, elle sera encore plus belle, parce que vous allez passer aussi certains cols, comme je disais, des pâturages, des crêtes, tout en, comment dire, c'est boisé, et en même temps, vous avez des très belles vues quand vous arrivez au sommet des cols.
Ah oui, le Mont-Aiguille, tout ça, je connais.
Ah, bon, eh ben, ouais,
parfait. Étape 3, le Ventoux.
Alors, le Ventoux, ça, c'est aussi un sommet mythique.
Ah, mais là, j'ai le profil sous les yeux de l'étape, là.
Alors, celle-là est pique.
C'est celle-là qui a le plus de dénivelé.
Alors, celle-ci, alors, il y a le plus de dénivelé positif et négatif, effectivement, dans le sens où, en fait, vous partez de la ville de Buis-les-Baronnies et vous allez donc aller jusqu'au sommet du Mont Ventoux, et vous allez redescendre le Mont Ventoux.
Par la route ou par les chemins ?
Par les chemins, toujours. Bon. Il y a toutes les... Comment dire ? Sur l'ensemble du trail, il y a 80% de chemin. Donc, celle-ci, elle est entièrement, quasiment en sentier. Donc, vous allez passer des petits villages très typiques de Provence. Il y a les sentiers qui vont être totalement différents du Vercors. Il y a beaucoup plus de cailloux, c'est beaucoup plus accidenté.
Il y aura plus de vent aussi.
Il y a plus de vent. Mais il se peut que, voilà, si jamais vous avez la chance de ne pas être dans les nuages, sous les nuages, vous allez pouvoir voir la vue d'en haut du Mont Ventoux et ça vaut vraiment le coup. Et vous finissez dans la belle ville de Séguré, qui est un village classé, un des plus beaux villages de France. Très mignon, très typique, avec des petites pierres, c'est préservé au milieu des vignes.
Ensuite, là, c'est le Cantal, c'est ça ?
Alors, le Cantal, non, c'est l'étape...
Non, j'ai raté une étape.
Ah là là. L'étape 4, c'est au Mont-Aigoual. Donc, c'est dans les Cévennes. Donc, on part de Lézan, donc jusqu'à Méruès. Il y a d'abord une petite voie verte aménagée que les coureurs vont prendre pour ensuite s'attaquer à l'ascension du Mont-Aigoual, qui est assez mythique. Alors là, vous aurez peut-être un peu moins de chance parce qu'on nous a dit qu'il y a à peu près 200 jours de brouillard au Mont-Aigoual.
Ah oui,
mais nous,
fait.
Cet été, on y allait et on a eu une super vue. Donc, il se peut que l'été, on soit chanceux. Et donc, ensuite, une fois que vous avez fait l'ascension du Mont-Aigoual, vous redescendez dans la commune de Méruès, qui est un petit village, encore une fois, très mignon, très typique. Voilà, vous avez plutôt un profil montant.
Arrivé là, on a fait le plus dur parce que la dernière étape, l'étape 6, on l'a dit, c'est le petit contre-la-montre. Et l'étape 5, là, une nouvelle fois, j'ai le profil sous les yeux. On arrive plus bas qu'on ne démarre. Donc,
L'étape 5, elle est spécifique parce que là, vous êtes plus en plaine par rapport aux autres épreuves. Donc là aussi, vous avez 80 km. Il y a plus de routes parce que, alors, je n'ai pas précisé, mais on passe uniquement par des GR.
D'accord.
Donc, en fait, on suit des GR. Et donc, ce GR, donc c'est le GR 63, il part de Salcuran et il va jusqu'à Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Vous allez croiser des beaux cours d'eau, des beaux lacs, le lac de Parloux. Mais par contre, c'est plus en descente qu'en montée. Donc, ça sera un peu plus facile.
Bon, ça fait quand même une semaine assez incroyable. Il y a déjà beaucoup d'inscrits là ou
On a une centaine d'inscrits déjà.
Donc il reste des places là encore.
Il reste encore des places. Mais alors, ce que
donc
j'ai
là, on parle de juillet 2021, donc
exactement.
On a le temps de s'organiser, de se préparer.
Pour se lancer ce gros défi, soit seul, soit accompagné. J'ai oublié de préciser qu'on peut aussi s'inscrire à la journée. C'est-à-dire que si jamais vous ne voulez pas faire l'ensemble des étapes, vous n'avez pas d'amis, de collègues qui veulent se lancer ce défi avec vous, et bien vous pouvez...
On peut le faire comme un trail classique.
Exactement.
Quoi.
Et donc, du coup, participer à l'ambiance, parce que ça va vraiment être, pour nous en tout cas, ça va être une fête et un moment de partage et de découverte. C'est ce qui se passe aussi dans les trails en étapes. C'est-à-dire qu'on part ensemble, on arrive ensemble, et on vit un moment hors du temps pendant ces 4,
voilà, vous avez des idées folles, mais moi, vous avez qu'à mettre un maillot jaune aussi, là. Comme ça, après chaque étape, on sait qui est leader.
Et ben,
ou une équipe jaune.
On est en pleine réflexion là-dessus, parce que, alors, il y a plein de monde qui nous le demande. Ça se fait dans certaines courses, sur certaines courses à étapes, mais on veut aussi trouver une manière de récompenser les gens qui ne sont pas forcément rapides. Parce qu'il y a le challenge, effectivement, du plus rapide, etc. Mais on sait aussi qu'il y a 80% des gens qui ne font pas partie des gens qui sont rapides. Et on sait qu'il faut trouver quelque chose qui va les motiver à gagner quelque chose. Donc ça, on est en pleine réflexion là-dessus. Mais le maillot jaune, on en parle beaucoup, beaucoup.
Ben Maud, bravo. Alors, redonnons l'adresse où on retrouve toutes les infos.
C'est letraildefrance.com. Et vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Vous avez les informations sur le parcours, sur les distances, sur les modalités d'inscription et sur les prix.
Oui, alors les prix, on n'en a pas parlé. Il y a différents types de prix. Hein.
Oui.
Alors juste en un mot, tu peux y aller.
Alors à l'étape, c'est entre 20 et 80 euros. Sur une inscription en individuel sur l'ensemble des étapes, c'est 890. Et pour les équipes, entre 3 et 4, c'est de 1800 à 2200 euros.
À diviser par le nombre de participants,
exactement,
bien sûr.
Exactement, bien sûr.
Donc voilà, tout ça donc, sur le site. Et puis alors, pour finir, comme l'offre est totalement complète chez vous, là, vous avez aussi un podcast.
Exactement.
Complémentaire de RMC Running.
Exactement. Comme vous, on fait un podcast, mais sur la partie trail et aventure, parce qu'on est des trailers, donc on a voulu partager ça. Et ça s'appelle Ouf. OU3F, je
très
pense
bien.
Que certains auditeurs peut-être écoutent
sans
déjà.
Sans doute, bien sûr.
Mais en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver...
Donc écoutez les deux, quoi, RMC Running,
exactement.
Et Ouf.
C'est complémentaire, exactement.
Maud, merci d'être venue.
Merci,
tu nous as fait voyager, c'était très sympa. Et puis bon, on va suivre donc le Trail de France de juillet prochain de près. Merci Maud, à très bientôt dans RMC Running.
À bientôt.
RMC Running.